Unissons, unis par notre foi, par notre Père et comme une seule famille pour célébrer la naissance du Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Péché. Qui est venu chercher et sauver les perdus pour nous rendre entiers et nous amener au Père. Beaucoup dans notre monde est focalisé sur un petit bébé, mais pas sur la raison il est venu. Je crois et j'espère que vous avez tous réalisé que nous travaillons au travers du livre de Matthieu et nous avons atteint les deux chapitres autour de la mort du Christ. Vous avez tout fait votre devoir. Chapitres 26 et 27. Merci David. À une époque où nous nous concentrons tous sur la célébration de sa naissance et la signification de la venue de Christ sur terre, quand Dieu est venu sur terre en tant qu'homme et la promesse qui a été faite, son nom sera Jésus, merveilleux conseiller, Emmanuel, chantons des chansons sur la gloire de Dieu et le Christ à venir. Ce Noël sera un message légèrement différent, mettant l'accent sur ce qu'il a apporté pour nous dans sa mort et pourquoi sa naissance est digne d'être célébrée. Par l'Ancien Testament, Dieu avait toujours mentionné qu'un sauveur vient, qu'un sauveur venait. Il libérait les captifs, libérait Israël et sera le souverain. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai partagé la parole ici, j'ai prêché, j'ai parlé de l'histoire d'Israël et des rois d'Israël. Israël avait décidé qu'il voulait le propre roi et ne voulait pas seulement avoir Dieu comme le roi. Ils avaient donc compris que la venue de Christ serait l'arrivée triomphale d'un roi qui amasse une armée et se battre pour le libérer et pour liberté. Comme diraient les Anglais, presque un chevalier en amour brillante. C'est comme ça les gens en Israël ont pensé. Même le roi Hérode avait peur de ce roi, propose les Juifs. Il a peur. Pendant des centaines d'années, les Israéliens étaient assis à attendre et à chercher quelqu'un de complémentaire différent de Jésus. Et les attentes étaient si élevées qu'ils ont manqué de le voir venir. Combien de fois vous avez attendu à une chose ou une autre chose s'est produite? Quand tu étais si confiant à cause d'une chose, quand quelque chose autre s'est passé, c'est étonnant. C'était une surprise complète. C'est ce qui est arrivé à toute une nation. Il attend quelque chose d'autre. Quand Jésus est venu, c'est vraiment différent. Le chapitre 26 commence par le Christ qui prédit à nouveau sa mort. Jésus a été avec un parfum très cher. Et quand les disciples sont énervés au sujet de gaspillage de parfum, Jésus a dit que c'était un bel acte qu'il préparait à l'enterrement. Ça, c'est bizarre de dire ça pendant un repas convivial. Mais c'est ça qui a passé. Que signifiait l'onction avec le parfum et signifiait-elle? Les disciples étaient très contraires par le gaspillage de l'argent. Et peut-être que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour Judas. Judas était un homme qui aimait l'argent et était avide. Il s'est probablement rendu compte à ce moment-là qu'il n'allait pas faire beaucoup d'argent de ce spectacle. Et ainsi, il est parti pour tourner dans le Christ. Il y a besoin de beaucoup d'argent. Mais quand il voit cet gaspillage, il est déçu et il prend une décision de partir et de tourner dans Christ. Les autres réactions des disciples, de notre point de vue, dans la culture, ont montré un bon cœur et qu'ils avaient une idée de ce que c'est de s'aimer et de prendre soin les uns des autres. Mais si nous revenons au temps réel et à la culture à Israël, c'était considéré comme un grand gaspillage et c'était contre la loi de la Torah. Le roi de la Torah a dit, c'est interdit d'être un gaspillage dans tout sens. Il était courant de se laver les pieds ou de se laver des pieds lorsque vous êtes entré dans une maison et habituellement, ils mettent quelques gouttes de parfum en elle pour le rendre agréable l'odeur. Mais Martha, parce que nous pensons que c'est Martha, a utilisé toute la bouteille de parfum. Elle n'a pas dilué, pas du tout. Elle l'a juste versé sur sa tête. C'est un gaspillage complet. Cependant, Christ a utilisé ce moment pour leur enseigner. Le point principal qu'il enseigna, était qu'il n'allait plus être là et sera tué. Et l'ancien préparait son corps pour l'enterrement. Ici, Christ a parlé très ouvertement de sa mort et le fait qu'il faisait référence à la préparation de son corps pour l'enterrement signifiait aussi qu'il savait que cela allait arriver très bientôt. Il savait qu'il allait être crucifié, il savait qu'il serait capturé par les anciens et les dirigeants de l'Église de l'époque, il savait où et quand. Il le savait. Il le savait. Je ne suis pas un expert en caractère humain. Je ne suis pas quelqu'un qui comprend ce que les gens font et pourquoi ils le font. Je sais une chose cependant, Christ n'a pas montré ce que nous voyons comme étant humain dans la façon dont il réagit et se prépare à sa propre mort. Ce n'est pas normal. Pour nous, pour n'offenser personne, je vais regarder cela à travers mes propres yeux. En tant que chrétien, et je suis un fervent croyant au Christ, en Christ, et j'étudiais la parole, et j'essayais d'être aussi comme Christ que je peux dans ma vie, dans tout que je fais. Si je savais que j'allais dans un endroit particulier et que je serais capturé et je serais accroché sur une croix et je mourrais, peut-être que c'est une faiblesse dans mon propre caractère, mais je ne voudrais pas. C'est une pas aller, pardon. Je ne voudrais pas aller. Désolé, peut-être c'est ma faute, mais si je sais, je ne peux aller, c'est sûr. Mais si j'ai hâte d'être au ciel avec notre Père, et même à mon âge de 45 ans, je ne suis toujours pas prête à abandonner mon corps. Pas pour le moment. Et je crois que ça c'est pareil pour beaucoup de personnes. Encore, moi, quand j'avais 33 ans, parce que ça c'était l'âge de Christ à ce moment, à cet âge, vous avez beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'énergie, vous pouvez conquérir le monde. Mais d'abandonner votre vie d'une telle manière, sciemment, délibérant, marcher vers votre mort comme celle-ci, je ne pense pas. Dans les années 80-90, nous avons le temps d'utiliser l'expression, je ne sais pas s'il est arrivé en France, peut-être pas, mais en Afrique du Sud, bien sûr, que fera Jésus? What would Jesus do? Je me souviens que dans les magasins, étaient des couvertures de Bible avec la phrase imprimée dessus. Les gens portent les bracelets avec la phrase écrite dessus. Il a été écrit sur notre stationnaire. Il était partout pour nous rappeler d'être plus comme Christ. Je vais maintenant poser la question. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Christ? Réfléchis un instant. Tout au long de l'histoire, nous avons entendu parler des gens qui sont morts pour des autres. C'est un phénomène et pas rare. Nous avons ces héros qui ont été courageux et qui ont mis leur vie en danger pour sauver des autres personnes, mais qui ont perdu la vie dans le processus. Nous en avons beaucoup dans ce monde et nous sommes bénis d'avoir de tel esprit. Nous avons aussi des gens, peut-être beaucoup moins que le cas précédent, qui vont délibérément de l'avant pour aider les autres. Ou il y a un risque ou une forte chance qu'ils puissent mourir. Mais tout au long de l'histoire, je suppose qu'il y a très peu de gens qui ont connu l'heure exacte et le lieu et la manière de leur mort. Ils sont encore morts en conséquence. qu'auriez-vous fait? Permettez-moi de vous poser la question suivante. Que feriez-vous de votre tombe si vous savez qu'il ne vous reste que 2 jours à vivre? Comment agirez-vous? Je sais que la majorité d'entre nous chercherait à organiser nos affaires avant de partir, parce que c'est pas toujours à jour. Mettre de l'ordre dans nos volontés, s'assurer que les familles sont prises en charge et avoir les bons soutiens en place. Pour certaines personnes, ce sera passer le temps précieux avec les amis et les familles. Et c'est un problème, fait toutes ces choses que nous avons toujours voulu faire, mais ne jamais eu le temps de faire. Pour les autres, c'est peut-être juste pour s'asseoir et se sentir désolé pour eux-mêmes. Peut-être que ma question était un peu injuste. Christ savait en fait depuis longtemps qu'il allait être crucifié, pas que deux jours, mais pour un long temps. Nous ne savons pas quand Dieu lui a dit, mais nous savons qu'il savait. Christ avait parlé 3 fois à ses disciples de le quitter, de mourir. Nous l'avons déjà vu dans Matthieu, chapitre 16, 21-23, puis à nouveau dans le chapitre 17, versets 22-23, et enfin Matthieu 20, 17 jusqu'à 19. Ici, dans le chapitre 26, il fait une prédication finale. Matthieu est le seul évangile où Christ parle 4 fois de sa mort. Et ça s'est trouvé dans verset 32. Mais après que je me suis levé, je vais aller devant vous en Galilée. Christ savait jusque dans les moindres détails ce à quoi il était fait faire face. Il connaît l'endroit, la manière et la façon dont chaque étape de processus s'y jouerait. Dieu, le Père, lui a-t-il dit. Peut-être que ce qu'il savait n'est pas très important, mais je crois que c'était une combinaison de 2 points. Christ avait été un érudit de la Bible. Il connaît complètement l'Ancien Testament. Et si vous vous souvenez, il a souvent cité dans divers textes de l'Ancien Testament sur les lois et les choses qui allaient passer, même sa mort. Sa compréhension de la parole au Seigneur va bien au-delà de ce que nous pouvons jamais savoir. Mais le point principal était qu'il savait. Beaucoup de choses sur sa mort et son sacrifice ont été écrites dans l'Ancien Testament. Comme nous avons écouté ce matin, sa naissance est écrite, mais aussi son mort. Deuxièmement, il avait une relation étonnamment étroite avec Dieu. Il écoutait Dieu et il était dirigé par Dieu dans toutes les choses qu'il a faites. Il pourrait plus facilement entendre Dieu à ces sujets aussi. Cela ne fait aucune différence pour le résultat. Ce que nous savons ce qu'il savait. Mais il modèle les choses dans nos vies. Connaissons-nous si bien le mot que nous pouvons le comprendre entièrement et le vivre dans nos vies? Écoutons-nous attentivement Dieu et suivons-nous ses voies comme Jésus? Je me suis souvent interrogé sur l'épisode dans le jardin de Gethsémani, quand il est allé à prier. Il amena trois des disciples, le plus proche avec lui, à prier. Ce n'était pas habituel. Souvent, quand Christ a voulu prier, il est parti par lui-même et a prié. Et à rencontrer les disciples à plus tard. C'est la seule fois qu'il ramène avec les disciples. Matthieu 26, versets 36 jusqu'à 41. Alors, Jésus est allé avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane et il leur a dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas et prier. » Il emmena Pierre et les deux fils de Zébédée avec lui et il commença à être triste et troublé. Puis il leur dit, « Mon âme est submergée de chagrin jusqu'à la mort. Reste ici et surveillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tombe le visage au sol et pria. Mon Père, si c'est possible que cette coupe me soit enlevée, pourtant pas comme je le veux, mais comme vous le ferez. Puis, il retourna à ses disciples et les trouva endormis. Ne pourriez-vous pas, les hommes, garder avec moi pendant une heure? Observez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il y a quelques points importants que je veux retirer de ce texte. Le premier était peut-être l'un des plus grands signes de l'humanité de Christ. Christ avait peur et était seul à ce moment. C'était la fin à venir et il le savait. Il savait ce qui allait se passer. Pourtant, il avait peur. Il avait peur. Il était aux prises avec l'un de nos plus grands problèmes, quelque chose que nous, les hommes et les femmes, combattons tous les jours. Il luttait entre ce qu'il veut et faire la volonté de Dieu. Ce qu'il veut et faire la volonté de Dieu, ça c'est notre problème. Chaque jour aussi. Je dois dire si humain. Ce point montre juste que même en tant que le Fils de Dieu, il était encore humain et il a lutté pour entre l'homme que nous le faisons aujourd'hui. Christ avait un libre moment. Il était libre. Il avait le choix en tout ce qu'il fait ici-bas. Il a le choix. Il n'était pas une marionnette contrôlée par Dieu, poussée par Dieu et instruite par Dieu. Il aurait pu choisir d'éviter d'être captivé, il n'aurait pas pu choisir de se libérer dans la captivité et cacher. Pourtant, sa prière montre comment il s'est volontairement soumis à la volonté de Dieu. Il a soumis. Père, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Il a supplié à son Père. Mais il a aussi dit, parce que c'est votre volonté, je vais le faire. Si c'est que tu veux de moi, alors je le ferai. Quelle démonstration d'honneur et de vouement envers le Père. Un vrai sacrifice. Il est difficile pour nous d'être à la mesure de cela. L'autre point, je le veux souligner, c'est qu'il avait demandé à certains de ses disciples de prier avec lui et de regarder. Il savait que même s'il était seul, avoir les disciples à ses côtés lui donnait aussi force et courage. C'était aussi un moment d'enseignement avec le Christ. Quand il les a trouvés endormis, il était clairement déçu. Il leur a demandé de se veiller. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dans sa faiblesse, il voulait aussi montrer que nous devrions nous surveiller les uns et les autres et les empêcher d'être tentés par la péché. Et aussi d'être toujours vigilants dans tout ce que nous faisons. Le péché ou la tentation ne vient pas quand nous en s'attendons. Il n'y a pas d'arrêt dans nos vies où la tentation arrivera. Tu ne te lèves pas le matin et te regardes dans ton calendrier et tu dis, « Ah, ce matin, je serai tenté à 11h15. » Nous pourrons facilement éviter la tentation de cette façon. Il vient quand nous nous y attendions le moins et souvent quand nous sommes sous le plus de stress, quand la vie est la plus difficile ou quand nous sommes préoccupés et ne pas être attentif. Le plus souvent, il vous attrape quand vous êtes à votre plus faible. Nous succombons souvent à nos désirs, à notre nature pécheresse. Christ a été tenté. Il savait qu'il est faible et qu'il devait chercher la force de son Père. C'est aussi un exemple important pour nous. Nous non seulement devrions être priés pour nous-mêmes, mais être vigilants pour ceux qui nous entourent quand ils sont en besoin. Ce qui a rendu cet épisode si puissant, c'est qu'il savait. Il ne s'en est pas enfoui même quand il en a l'occasion. Il ne s'est pas caché ou n'a pas essayé de se battre. Il a laissé faire. Quand ils sont venus l'arrêter, il a empêché les disciples de se battre et a guéri l'oreille de l'un des soldats. Il a allé calmement et tranquillement. Cet acte était merveilleux. Tout au long des chapitres 26 et 27, non seulement Christ savait quoi ou quand cela allait se produire, et même s'il aurait pu le contrôler et aurait pu changer le résultat, il savait qu'il a été prédestiné à cela. C'est prédestiné. C'est pour ça qu'il est venu. Après trois courtes années de ministère, de montrer à ses disciples et au monde comment être de véritables serviteurs de Dieu. Christ savait qu'il était prédestiné à devenir un sacrifice pour toute l'humanité. Christ a été comme l'agneau de Dieu. Cela expliqué en partie par le fait qu'il a été sacrifié pour notre bien, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous pouvons entrer dans une relation avec notre Père. Mais pourquoi un agneau? Dans Exode 12, versets 3 et 4, pendant les préparatifs de la première Pâque, alors que les Israélites étaient en Égypte, en attente de partir, Moïse ordonna au peuple de prendre un agneau jeune et parfait. Il doit être sans tache. Et prendre son sang et le peindre sur les poteaux de porc de la maison. Cela protégerait les Israélites de l'ange de la mort qui souvolait et tuait les premiers-nés. C'est dans Lévitique, plus tard, quand Dieu a décrit la relation qu'il aurait avec son peuple, une partie de cette relation parlant de prendre un agneau au temple, un jeune agneau sans tache, et de l'offrir comme un sacrifice pour vos péchés et de corriger votre relation avec Dieu. L'agneau sera sacrifié et son sang qui a été renversé et brûlé était un doux parfum pour le Seigneur et vos péchés ont été pardonnés. Lévitique 17, 11, car la vie d'un créature est dans le sang. Et je vous ai donné faire l'expiation pour vous-même sur l'autel. C'est le sang qui fait l'expiation pour sa vie. C'est le sang. Nous revoyons à nouveau dans Hébreux chapitre 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même les Romains ne pouvaient pas trouver de faute en Christ. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce mort et ont proclamé qu'il était innocent. Personne ne pouvait témoigner contre lui. Il n'y avait aucune preuve. Mais c'était le seul moyen. Quand nous regardons la vie de Christ et même ses derniers jours comme décrit dans Matthieu 26 et 27, sous une telle pression, tension et tourment, Christ est resté irréprochable. Irréprochable et pur. Christ représentait l'agneau sacrificiel ultime de la Pâque. Il était complètement irréprochable, qui a pris nos péchés sur lui-même et est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que nos péchés seront pardonnés et que nous puissions vivre dans sa grâce et non sur la loi. Nous pouvons parler maintenant de la magnificence de moment avec facilité. Quand Christ a été accroché sur cette croix, battu, meurtri avec une couronne d'épines, nous ne pouvons qu'imaginer la douleur dans laquelle il devait être. Comme le poids de chacun de nos péchés a été placé sur ses épaules. Nous, non seulement les péchés du passé ou du présent, mais tous les péchés de l'avenir pèsent sur lui et son âme. Enfin, il ne pouvait plus le supporter et il cria dans la douleur et l'angoisse. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort, prenant tous nos péchés avec lui. Le rideau dans le temple a été déchiré, ouvert. Il n'y avait plus de séparation de l'homme de Dieu. Quand il mourut, la terre trembla. Il tremblait à l'emploi de ce qui s'était passé. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens se sont rendus compte qu'en effet, il était le Fils de Dieu. Mais c'est trop tard. C'est ce que nous célébrons à Noël. L'arrivée triomphale d'un roi, alors que sa naissance était très, très humble, et ses débuts certainement pas dignes d'un roi. Il est né roi. Un roi qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Dieu qui est devenu homme pour nous sauver de nous-mêmes. Un bébé qui est venu mourir sur une croix que nous puissions être avec notre Père. Ça, c'est la raison de Noël. On veut prier. Père, nous prions aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant pour la naissance miraculeuse de Christ. La naissance d'un roi qui nous apprendrait à être de vrais serviteurs, à être vos enfants en toutes choses et à vivre dans l'amour et la grâce et non dans le roi. À connaître notre roi et le faire connaître. Merci, Père, pour ton amour pour nous. Merci que nous puissions le célébrer, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Amen.
Merci beaucoup, Andrew. Merci. Bravo pour le timing. On avait dit aujourd'hui que ça finirait plutôt à 11h45, parce qu'il y a les équipes qui s'occupent des enfants depuis le début du culte. Un grand merci. Justement, pour ceux qui ont des enfants à récupérer, merci de ne pas trop traîner comme ils les ont gardés pendant près de 2 heures. Et donc, un grand bravo à eux aussi de s'être occupés des enfants pendant tout ce temps. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai qu'on n'aura pas de temps de veillée ou autre en église.